Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi guys, what's up? Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi c'est Camille et on va passer les prochaines minutes ensemble, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité très spécial que tu vas pas connaître parce que c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux, tu vois. C'est pas comme Antoine ou Lala ou Mara, mais c'est une personne qui, pour moi, c'est l'invité parfait pour cet épisode. Étant donné que le sujet de l'épisode, c'est qu'est-ce qu'un homme viril ? Et aujourd'hui avec moi, il y a Boris. Boris.
Bonjour. Ça met la pression quand tu donnes les sujets.
Mais non, il n'y a pas à avoir. Enfin, il y a zéro pression. Franchement, il y a zéro pression. Et ça va bien se passer. T'inquiète. J'ai l'impression d'être un médecin. Mais t'inquiète, ça va bien se passer.
On est un peu en thérapie là, non ?
De ouf, non ?
Ouais, moi je trouve.
En plus, on est assis sur un canapé, il est presque minuit. Et on va parler d'un sujet hyper intéressant, je trouve.
Bah, moi je trouve ça même passionnant parce que c'est. C'est quelque chose qui me concerne, qui concerne pas mal de mes potes.
Ouais.
Et je pense que c'est un sujet qui se démocratise en tout cas dans les discussions entre mecs. Enfin, j'ai l'impression en tout cas d'essayer de grandir un petit peu, de s'épanouir et de s'émanciper de certains clichés de nos parents ou de nos pères en l'occurrence.
Bah écoute, c'est franchement j'ai hâte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas?
Oui, alors donc j'habite à Paris. J'ai travaillé très longtemps dans le 93. Alors, je suis originaire du 93. J'ai travaillé 12 ans dans le 93 à l'aide sociale à l'enfance. Donc, mm-hmm. J'étais éducateur spécialisé. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai eu un grand virage dans ma vie pro. Et je vais t'épargner les détails puisqu'ils ne sont pas très intéressants pour le sujet du jour. Mais j'ai fait un grand virage dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis directeur créatif dans une agence de communication spécialisée dans le sport. Mm-hmm. Donc, on fait de la stratégie pour des marques qui investissent dans le sport, tout simplement. On fait des campagnes. On produit des contenus, etc. Et à côté de ça, on accompagne aussi des athlètes de très haut niveau, puisqu'on a aujourd'hui une quinzaine d'athlètes dont on s'occupe, dont 5 de l'équipe de France de rugby, dont le capitaine. Donc, voilà. On a 4 joueuses de l'équipe de France de foot. Et on a encore pas mal d'autres joueurs de foot. Alors, ils sont plus trop en équipe de France. Je vais pas tous les citer, mais il y en a certains. Il y en a quand ils ont été en équipe de France. En ce moment, ils y sont plus trop.
Okay.
Voilà. Mais on a une quinzaine. Et puis des sujets pour nous avec la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de foot féminin qui aura lieu cet été également, les JO l'année prochaine.
Oh ouais, putain, il y a pas mal de trucs qui. Enfin, c'est cool.
Ouais, c'est très cool.
Tu kiffes, en tout cas.
Je kiffe et ça remplit bien les journées.
Ah bah, pour le coup, c'est vrai que ça remplit.
Mais
pas
ça
mal.
M'éloigne pas trop, finalement, parfois. De mon taf d'avant dans la manière d'accompagner les gens.
Vu que tu étais dans le sous-sol avant, il y a beaucoup le côté humain.
Affect, ouais, tu sais, trouver la bonne distance. Je trouve que c'est même aussi un sujet qui va être intéressant, je pense, pour le podcast du jour, mais trouver la bonne distance entre être dans l'affect, être dans l'accompagnement, être dans l'empathie, la compassion, la compréhension des problématiques de l'autre, mais sans empiéter sur son espace. C'est-à-dire laisser à la personne la possibilité d'être elle-même tout en l'accompagnant. Donc c'est un truc que j'avais beaucoup dans le social.
Okay.
On ne se met pas à la place des gens, hein, sinon ils n'ont pas de place où se mettre.
Bah oui.
Mais en même temps, on essaye de trouver le meilleur, enfin de les accompagner pour que ça soit le meilleur pour eux.
Mm.
Donc voilà.
Bah, du coup, déjà pour te mettre toi dans le bain et pour t'expliquer un peu comment l'idée nous est venue pour parler de ce sujet, pour choisir ce sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, je le fais hyper court. Alors, toi, Boris, je t'avais déjà raconté, mais je vais la faire hyper court pour les gens qui... Mais
j'adore cette histoire, donc tu peux la raconter à nouveau.
T'inquiète, j'ai pas
gêné. J'ai entendu 12 fois, je crois.
Mais je te jure, en plus, là, on était assises avec des copines, je l'ai raconté, je crois, 2-3 fois. Ouais. Pour.
C'était ma quatrième fois, ce soir.
Voilà.
J'ai eu le droit à la quatrième...
Exactement, enjoy. Alors, je t'explique, je parlais à un homme, on va dire, que je connais pas du tout, mais que je suivais sur les réseaux. Et en fait, il était de passage sur Paris, bref, j'ai invité à boire un verre, vu que c'est aussi un créateur de contenu. Et ça se fait, entre créateurs de contenu, pour... Je sais pas, déjà, j'adore son travail, ce qu'il fait et tout, donc voilà. Et je t'épargne tous les détails, mais bon, une fois qu'on s'est eu au téléphone, le jour même où on s'est parlé, enfin, on s'est eu au téléphone, il m'a appelé et tout, et moi, je suis très, enfin, tu connais, très chill. J'avais proposé un endroit pour boire un café. Et l'endroit, c'est un endroit sympa pour les gens qui habitent sur Paris, enfin, même partout au monde, tu connais, c'est, voilà, c'est hyper stylé. Et le mec, il me dit, en fait, cet endroit-là, j'aime pas. Donc, voilà ce qu'on va faire, avec ce ton. Je tiens prisonnier, avec un ton magnifique. Il me dit, je vais te dire où est-ce qu'on va se voir, à quelle heure on va se voir, et on va travailler sur ton agressivité. Ouais, parce que juste avant, il m'avait dit, ouais, je sens que t'es très agressive comme personne. Je peux comprendre, hein, franchement, c'est très subjectif, en vrai, donc you never know. Mais voilà, c'était le fait que le mec, il m'ait dit, c'est moi qui vais te dire à quel
moment. C'est un peu même la condescendance. Il y avait un truc un peu...
Ouais, en mode, en fait, je m'en fous de ton planning de ta vie, je vais te dire où et quand. Et en fait, ça m'a choqué, genre ça m'a fait rire, plus qu'autre chose, parce que je me dis, on est en 2023. Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'on était en 2023 et que c'était pas ok, en fait, de parler à une personne, encore moins une femme, tu vois, que tu connais pas, comme ça, en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, le mec, c'est typiquement... Je crois que pour lui, il était en mode très viril, très man, tu vois, très homme et tout. Alors qu'en fait, moi, j'ai trouvé ça juste... C'était du machisme, mais très... c'était très déplacé. Donc, je me suis dit que ça peut être cool de faire un épisode pour parler de la virilité, en fait. Qu'est-ce qu'un homme viril ? Et clairement, j'ai besoin d'un homme, tu vois, pour en parler.
Bon, j'espère que t'es bien tombée, là.
Bah, j'espère
que tu vas pas être déçue de ce que je vais raconter.
Bah, en fait, on va juger. Crois-moi, on va toutes et tous juger. Mais j'ai bien qu'on en parle, en fait. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes, que ce soit les hommes, les femmes, que ce soit aussi dans les relations amoureuses, même dans les relations familiales, amicales, au bureau. Mais c'est quelque chose qui touche tout le monde, en fait.
C'est un sujet qui finalement nous amène tous en tant qu'hommes, en tout cas à des moments à nous interroger. Alors si on s'interroge pas, c'est peut-être justement ça le souci, c'est que quand tu t'interroges pas, bah tu peux tomber dans les travers de pas être viril et être macho.
Ouais.
Mais c'est pas un travail, je pense, qui va pas de soi. Mm-hmm. Tu vois, de trouver la nuance entre les deux notions comme ça, et qu'il y a une part de notre histoire personnelle forcément qui vient impacter tout ça, de la culture dans laquelle on a grandi, on a évolué, comment on a réussi à s'en émanciper ou pas, la dimension de libre arbitre qui nous a permis aussi de lâcher un peu ce côté-là. Moi, j'avoue, je suis donc d'origine serbe, donc avec un papa serbe et une maman française, donc d'origine franco-serbe, et c'est vrai que j'ai quand même eu l'exemple à la maison, pas du papa le plus participatif qui soit.
On est deux.
Bon, l'esprit méditerranéen était bien présent. Et moi, j'ai un papa qui je l'ai jamais vu cuisiner, j'ai jamais vu faire le ménage. À part, je raconte cette petite anecdote que je t'ai partagée sur les pains aux œufs, où mon daron, le seul truc qu'il faisait, c'était de faire le dimanche matin, de mettre du pain rassis avec de l'œuf.
Mais ça me tue. Parce que la même chose, mon père, si je le vois. En train de cuisiner un truc, c'est ça, c'est le même plat. Et mon père, il est marocain. Le tien, il est serbe. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine ?
Je crois qu'on ne veut pas jeter le pain ni d'un côté de la Méditerranée ni de l'autre. On ne veut pas jeter le pain, on ne jette pas le pain.
Mais ça me tue parce que c'est fou qu'ils aient ce... Mais pareil, il n'a jamais fait de ménage, il n'a jamais... Enfin, voilà.
C'est la même chose. Et je pense que moi, au contraire, était dans le rejet. Tu vois, c'est pas juste... Il esquivait. C'est juste ma mère, je l'ai... Les rares fois où je lui ai vu demander, il n'a pas fait.
Ouais.
Et puis sinon, il disait que ce n'était pas aux hommes de le faire. Tu vois, il y avait un truc. C'était d'ailleurs assez conflictuel entre mes parents sur ces sujets-là, parce que je pense qu'il y a eu un truc où ma mère, finalement, née en France, même dans les années... Elle est née dans les années 50, ma mère. Mais il y a un truc où... où elle a grandi avec son temps, elle a connu mai 68, elle a connu, tu vois, même si elle était jeune, mais je pense qu'il y a un truc quand même qui l'a marqué. Elle rencontre mon père, c'est love to love, parce que tu vois, le charme slave a opéré, je pense, tu vois. Ouais. Elle s'est fait avoir. Et puis après, non, bon, après, mon père n'était pas horrible, mais y a un truc où je pense que culturellement, lui, il a été complètement marqué au fer rouge sur un truc de les mecs ne font rien. Donc moi, c'était l'exemple que j'avais à la maison.
Ouais, mais du coup, pour toi, quand tu voyais ton père, tu dirais plus qu'il est viril ou macho ?
Macho, mais c'était macho dans le sens où il y avait un truc un peu de, tu vois, de domination envers ma mère quand même, tu vois, de je ne fais pas et je vais pas le faire parce que je suis un mec et c'est toi qui vas le faire parce que t'es une femme.
Ouais,
tu vois,
donc là, on tombe vraiment dans le machisme.
Ouais, parce que le machisme, je pense, t'as un mécanique aussi, le mécanisme de domination, mais aussi de renvoyer à la personne qui est en face de toi que c'est parce que c'est une femme, c'est son genre qui va prédéfinir ce qu'elle va être amenée à faire à la maison ou pas. Et la virilité, je pense qu'elle elle s'exprime sur quelque chose qui est complètement au-delà de la relation entre deux personnes. Être viril, c'est quelque chose que tu dégages, c'est un truc peut-être un peu plus de confiance en soi, c'est peut-être un truc de... Je sais pas, j'aurais du mal à donner une définition exacte du mot, mais en tout cas, pour moi, il y a une grande différence entre les deux. C'est plutôt sur ce que tu fais vivre à l'autre.
Ah, ok, ok. Donc pour toi, enfin, la différence entre être macho et être viril, j'ai envie de dire, c'est...
Bah alors, tu vois, c'est marrant parce que en réfléchissant à ce sujet-là, j'avais pas forcément pensé à ça, mais là, tu vois, en parlant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'exerce plus de... Tu vois, du rapport à l'autre. Être viril, tu peux être viril tout seul.
Ouais.
Tu vois, mais être macho tout seul, ça veut pas dire grand-chose.
Ouais, c'est vrai que...
Enfin, si t'es macho tout seul, tu fais chier personne, en fait.
Ouais.
S'il y a personne autour de toi. Mais si t'es macho avec les femmes qui t'entourent,
ouais,
tu vas, tu vois, imposer une forme de violence psychique ou, tu vois, un truc de... Toujours, toi, rabaissant, te renvoyer à parce que t'es une meuf. Alors que... Si t'as personne en face de toi, ce truc-là, il tombe à l'eau, quoi.
Ouais.
Donc, au-delà des histoires de est-ce qu'on le fait parce qu'on a confiance, etc., je pense que là, une des grandes différences, un des grands points de différence, c'est justement de se dire il faut être deux pour être macho.
Ah, franchement, j'ai jamais pensé comme ça. Genre, franchement, j'ai jamais vraiment pensé. Être viril.
Et viril, c'est peut-être un truc que tu dégages, tu vois. C'est comme le charisme. C'est comme, est-ce que tu dirais, t'as pas besoin d'être deux pour du charisme, tu vois.
Bah,
être viril, c'est vraiment un truc que tu dégages, un truc qui peut être un trait de caractère d'une certaine façon, tu vois, qui va être séduisant pour l'autre.
Mm-hmm.
Le machisme, finalement, c'est un mécanisme, tu vois, qu'on vient imposer dans le mode de relation, de domination de l'autre.
Est-ce que toi, sincèrement, et ne mens pas, t'as déjà été macho?
Oh, très certainement, je pense que plus jeune, tu vois, quand on parlait de l'éducation...
Je tiens à préciser que tu as quel âge ?
39 ans.
39 ans, voilà. Genre il a vécu des trucs, donc...
Je pense que je l'ai été beaucoup plus jeune, parce que déjà, généralement, dans tes premières relations, t'as un peu... Tu te construis avec le seul modèle que tu as en face de toi, à savoir tes parents.
Ouais, bah oui.
Et c'est vrai que... Bon... J'ai dû sûrement l'être. Alors après, j'ai parlé de mon père et de ma mère, mais j'ai une sœur également qui a 8 ans de plus que moi et qui a un très fort caractère.
Ouais.
Et ma mère, mine de rien, même si elle faisait tout à la maison, parce que je pense qu'elle avait baissé les bras depuis très longtemps, elle avait quand même aussi un très fort caractère. Et l'éducation qu'elle m'a transmise, et que même ma sœur m'a transmise aussi, parce que ma sœur a participé à mon éducation, à 8 ans d'écart, tu vois, dans ce qu'elle te transmet des valeurs, etc., et de... l'éveil intellectuel et culturel, forcément qu'il y a eu un impact. Je pense que c'est ma sœur et ma mère qui m'ont permis
de cheminer
pour rééquilibrer la balance là-dedans. Parce que le seul exemple que j'avais, c'était mon père. Donc je pense que dans mes premières relations amoureuses, pas sérieuses, je pense plus collège, tu vois, ce genre de truc.
Ouais, t'es encore jeune.
T'as un truc où tu... veut imposer quelque chose à l'autre, d'avoir l'air cool, mais tu sais pas comment trop le faire, et finalement tu vas répéter les choses que t'as vues à la maison, et très certainement que j'ai dû avoir des remarques déplacées, machistes, vraiment comme il fallait pas quand j'étais collège, lycée, très certainement. J'essaie de me souvenir de trucs, mais je pense sur la jalousie, sur des trucs que tu dois pas parler à parce que je suis ton mec et tu t'as pas le droit de parler aux autres garçons, les relations d'amitié, tu vois, quand on est un peu plus jeune, on n'a pas confiance en soi, donc on n'a pas confiance en l'autre. Et du coup, tu vas reprendre ce que tu as vu à la maison, de dire, je vais lui dire de faire comme ça et ça va peut-être me prémunir de qu'elle aille voir ailleurs ou que j'en sais rien. Mais tu vas, en tout cas, appliquer un truc. Mais j'ai J'arrive pas à avoir de souvenir exactement en tête de moi avoir eu des comportements macho-macho. Après, mon père, oui, complètement. De dire les hommes ne font pas ça, les filles le font, de me dire non, mais je vais pas passer la serpillière, non, mais ça va pas ou quoi. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai entendus à la maison. Et pour autant, c'était un homme formidable à plein d'égards,
Mais
mais
oui.
macho. Et c'était pas ce que j'aimais chez mon père. C'était pas la partie que j'aimais le plus.
Bah oui, non, mais je comprends. Après, enfin, faut pas se mentir que c'est une génération un peu différente de la nôtre, en vrai. Mais enfin, le profil de ton père, par exemple, je retrouve aussi dans pas mal d'hommes dans ma famille, dans le sens où ils te disent oui, on mange, et les femmes, des fois, elles mangent après. Ou elles mangent dans la cuisine, tu rigoles, mais ça arrive,
Mais
hein.
je rigole parce que je l'ai vécu, ça.
Bah
Hein.
voilà, bah, en fait,
Moi,
c'est exactement ça, tu vois.
je l'ai vécu dans les trucs de un peu plus communauté, quand tu as des fêtes de famille ou des choses comme ça. Donc,
Oui.
dans les familles serbes, en fait, quand les garçons restent assis, les femmes se lèvent et servent à table dans les fêtes.
Oui,
Et
ah bah c'est complètement, c'est la même chose au Maroc,
j'ai
hein.
déjà eu des. Pour le coup, en Serbie, j'ai ma tante qui m'a déjà demandé de me rasseoir quand j'aidais à débarrasser, quoi. Non, mais non, c'est ça. Et genre, qui m'engueulait en mode, mais ça va pas la tête. Genre, tu vas pas te lever pour débarrasser, t'es pas une femme. Donc, ce truc-là, ça, je l'ai vraiment vécu, tu vois.
Bah oui, mais ça existe. Enfin, c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est que ma mère m'a déjà engueulée parce que j'avais demandé à mon frère, mon petit frère. On a 5 ans de différence, non, ouais, 5 ans de différence. Je lui avais demandé de passer la serpillière, je pense. Et en fait, ma mère est rentrée, il était en train de passer la serpillière et moi, je faisais d'autres trucs. C'est pas comme si j'étais assise tranquille, tu vois, en s'entraider, ce qui est normal. Mais même pour ma mère, tu vois, et en termes de génération, on n'est pas très loin non plus. Elle m'a dit non. Non, pourquoi tu fais faire ça à ton frère? Mais il faut pas. Et tu sais qu'aujourd'hui, bah, limite, c'est pas qu'elle regrette, mais si, elle regrette, parce que là, il habite tout seul. Et il se réapprend des trucs qu'il aurait pu apprendre il y a longtemps, si on avait pu un peu ne pas le former dans ce sens-là, dans le sens où, oui, en fait, les mecs, ils font pas ça, et en fait, c'est aux meufs de faire ça. C'est à ta sœur de cuisiner, c'est à ta sœur de nettoyer,
Mais
c'est
t'as
pas à
vu
toi.
depuis tout à l'heure, on est sur des trucs aussi où je me faisais la réflexion, on est hyper centré sur la maison et les tâches ménagères.
Bah, c'est
C'est
là que
un
t'as
délire, hein?
grandi.
Ouais.
En fait, c'est une grosse partie de
Et que c'est
commenter.
la première expérience qu'on a du machisme.
Ah, mais complètement.
Quand on le vit,
Dans une
parce
famille.
qu'on a un parent qui est macho,
Ouais.
bon, quand t'as un papa qui est macho, généralement, ça s'exprime vraiment là-dessus. Mais j'ai des exemples aussi autour de moi où tu as le truc où ma meuf, elle doit pas faire ça, parce que c'est une meuf, parce que c'est ma meuf. Et
Ouais.
tu vois, et finalement, on est un peu sur le même genre de mécanisme. Elle doit pas, parce que c'est une fille. Et
Ouais.
on se retrouve finalement, peut-être aujourd'hui un peu moins avec ces problèmes de tâches ménagères, parce que les gens, ils ont quand même un peu évolué là-dessus. Mais les exemples autour de moi encore aujourd'hui de copains qui ont mon âge ou un peu plus jeunes, ou même bien plus jeunes, des neveux, des cousins, etc. Quand il y a du machisme, il s'exerce toujours, enfin, il s'exprime toujours à travers un truc de une femme doit pas faire ci, une femme doit pas faire ça. Comment ça, ta meuf, elle sort avec ses copines et toi, tu sais même pas où elle est?
Ouais.
Ben, moi, non, j'ai aucune idée.
Mais
Hein,
en fait, du coup,
fait...
pour toi et tes potes, par exemple, s'il y a ce genre de scénario qui se passe, est-ce que pour eux, t'es moins viril?
Je pense qu'il y a un truc où je suis moins mec, ouais.
Ah ouais?
Mes potes qui ont cette vision-là, ouais.
Ouais.
Mais je pense que, tu vois, la virilité, pour eux, s'exprime à travers le fait de pas se les... de, peut-être qu'ils peuvent imposer des choses aux autres.
En fait, c'est force.
Moi, je pense que, ouais, le machisme
Et
impose un rapport de force en permanence. Et
domination.
forcément de domination, ouais.
Ouais.
Et que la virilité, encore une fois, c'est un truc de... Je pense que tu dégages parce que... Tu vois, le terme, je sais qu'il n'est pas forcément bien vu, mais tu vois, le côté alpha, c'est aussi ça, le truc qui se dégage un peu, genre, on est sûr de soi, on sait
Ouais.
où on va dans la vie, on a une vision, on a, etc., etc. La virilité, c'est un truc qui donne confiance.
Ouais.
Même l'autre, il a confiance, en fait, la personne en
Ouais.
face de toi. Et pas que... C'est un côté rassurant, mais c'est pas qu'un truc dans le rapport fille-garçon. Ça peut être avec je sais pas, moi j'ai un neveu qui est assez grand. Je pense que je dégage un truc un peu de sécurité, de posé, mature et en même temps mec, mais qui sait où il est, qui sait où il va. Et ça, c'est un truc qui est rassurant de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter parce que voilà, il dégage un truc de rassurant. Mais ça, c'est parce que c'est cool quand même d'avoir quelqu'un en face de soi quand ça va moins bien qui dégage. voilà, cette impression de sérénité.
Où tu te sens, où tu peux te laisser aller, tu peux faire confiance. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, parce que juste avant, je t'explique. Le sujet, on a débattu pendant... je sais pas
deux heures, je pense.
Ouais, je crois deux heures avec les filles. On était assis là dans le salon, par terre et tout, on était en train d'en parler. Et on a aussi parlé d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que moi, par exemple, si pour qu'un homme me plaise, c'est pas histoire qu'il soit macho ou viril, j'ai envie de dire. Viril, oui, il faut pas se mentir, mais voilà. Mais c'est juste l'énergie qu'il dégage, l'aura qu'il dégage, et aussi son énergie masculine. Vu que moi, derrière, j'ai une énergie masculine qui est très, très forte, dans le sens où je fais pas mal, je donne pas mal, je fais pas mal. C'est rare pour moi de trouver quelqu'un, un homme, qui a une énergie masculine assez forte et qui est assez à l'aise avec, pour que derrière, en fait, je fasse remonter mon énergie féminine et que je fasse redescendre mon énergie masculine. Et là, ça rejoint un peu l'idée d'un homme viril qui est assez confiant, qui
bah pour sait accepter mettre... qu'en face de soi, il y a quelqu'un qui puisse être comme il a envie d'être à certains moments.
Voilà.
Sans que ça soit quelque chose qui vient le bousculer dans sa masculinité, oui. Et qui va d'un seul coup le fragiliser. Moi, j'ai pas peur d'être avec une meuf qui a du caractère,
ouais.
Tu vois, et puis qu'à des moments, elle va moins bien,
ouais.
Mais à des moments, elle peut mettre des coups de pression. Mmh. J'ai pas l'impression que je vais me faire couper les tu vois, parce que d'un seul coup, elle m'a donné son avis et qu'elle l'impose, tu vois,
ouais.
Ou qu'elle essaie de l'imposer. C'est des discussions d'être humain à être humain, en fait, tu vois. Et je pense que le machisme, il interdit tout ça. Le machisme, il interdit de pouvoir être en désaccord et d'être fragile à des moments. Il interdit tout ça. Et du coup, ça évite les discussions, ça évite les conflits, ça enferme dans des cases.
Ouais, mais je trouve, en fait, c'est moche pour les hommes aussi. Enfin, ça me fait de la peine pour eux, dans le sens où la société les a formés dans ce sens-là, dans le sens où si tu veux être un homme, si tu veux qu'on te respecte, il faut être comme ça, il ne faut pas s'exprimer, il ne faut pas être faible, il ne faut pas, je sais pas, il faut donner des ordres, il faut parler fort, il faut être comme, tu vois.
Complètement d'accord.
Et derrière, en fait, mine de rien, c'est vraiment pas bien, ni mentalement, ni physiquement, mais bah, surtout mentalement, tu vois.
Mentalement, en plus, le pire, c'est que moi, les copains dont je te parle, qui sont archi machos et qui ont des visions, bah, ma meuf, elle ne peut pas sortir avec ses copines, genre si je ne sais pas où elle va, ou si, etc., elle ne me dit pas exactement son programme, ou si elle ne rentre pas à telle heure, etc. Mais c'est des mecs qui sont en panique, ça.
Mais oui, mais
c'est des mecs qui sont en panique, c'est des mecs qui ont peur que leur meuf, elle, genre quoi, si tu ne sais pas où elle va aller,
elle va
aller voir des mecs. Mais à quel point tu n'as pas confiance en toi pour savoir. Mais moi, ça me rendrait ouf de devoir me justifier en permanence de où je suis. Mais à quel moment je demanderais ça à ma meuf, en fait?
Mais tu sais, là, ça me rappelle un truc. Une copine à moi, et en fait, j'avais assisté à la scène et ça m'avait. Mais choquée. En fait, c'était une soirée entre copines, tu vois. Très chill. Et on décide de sortir en boîte. Donc, je crois qu'elle était... Il y avait deux filles en couple et deux célibataires. Moi, célibataire des deux, voilà, clairement. Mais du coup, on s'est dit, vas-y, on s'est chauffé à la dernière minute, tu vois, les soirées comme ça, dernière minute et tout, on s'habille. Et une des copines qui est en couple, elle envoie un texto à son mec pour lui dire, je sors en boîte, si je te réponds pas, t'inquiète. J'envoie un message une fois que je rentre et tout, pour que tu sois rassurée et tout. Et la deuxième meuf, bah, elle nous dit, en fait, je crois pas, je vais lui envoyer un message, je vais juste lui dire, on va lancer un film. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle dit, non, il aime pas quand je sors en boîte. Je lui dis, mais pourquoi ? Explique. Elle me dit, non, en fait, littéralement, je répète mot par mot ce qu'elle m'avait dit. Et elle m'avait dit, en fait, il aime pas que d'autres mecs me voient. Quand je suis belle,
t'as appréqué, machin. Ouais.
Donc j'ai pas cherché à aller. Enfin, je me suis dit, franchement, c'est leur couple. Vas-y, rentre pas dans les nanas. Commence pas à dire, en fait, ton mec, il y a un gros souci. Et prends le temps d'y réfléchir. Je me suis dit, franchement, on va sortir, on va s'amuser. Je lui dis, franchement, fais comme tu veux. Donc on s'est habillé, on est sorti, on arrive en boîte, on rentre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il lui envoie un message. Je lui dis, je suis en bas de chez ta pote, descends. Alors comment te dire qu'on n'était pas du tout à côté de la maison ? Et la meuf, elle a flippé. Parce que déjà, du coup, tu lui as pas dit. T'as menti. Et le mec, il s'est pointé. genre tellement zéro confiance, tu vois.
Mais zéro confiance, mais surtout, tu vois, l'insécurité dans laquelle ça met ta pote. Oui. D'un seul coup, t'as pas le droit de kiffer.
Non.
T'es obligé de mentir.
Oui.
Et tu te sens coupable.
Bah, c'est ça.
Tu te sens coupable, alors que tu mens juste pour être tranquille parce que le mec est complètement ouf.
Ouais. Bah, autant te dire qu'elle est partie en larmes, elle a pris un Uber et elle a couru, elle est arrivée.
Mais tu sais, moi, donc ce genre de mecs, moi j'ai des potes comme ça,
ouais.
C'est généralement les mecs qui baltringuent le plus sur leur meuf, tu vois, qui sont en panique de machin et qui ont l'impression de devoir les. Tu sais, avec encore ces termes-là, genre de les dresser ou de leur les cadrer.
C'est ça, genre c'est comme si. Putain, c'est moche, c'est vraiment.
Alors c'est moche à dire, mais pour moi, je te dis, c'est encore un truc où c'est foncièrement plus des potes qui vont mal parce qu'ils parlent. Pas, même à leurs copains, même à leurs amis.
Oui.
Tu sais quand ils vont pas bien, parce que tu décryptes au bout d'un moment, t'as des trucs familiaux, des trucs de taf, des trucs de même un peu narcissiques, tu vois, genre ça va un peu moins bien, ils se sentent moins frais, ils ont un peu moins moins de flow, et la flamme elle brûle un peu moins. Et en fait, le seul moyen de s'en rassurer, c'est de victimiser quelqu'un d'autre.
Bah oui.
Et ça, tu vois, genre. Enfin, c'est un délire parce que j'ai l'exemple de copine aussi à qui c'est arrivé. En fait, ça rend ouf parce que tu vois, j'ai beaucoup d'amis filles. J'ai bossé dans le social, je te disais tout à l'heure.
Ouais.
J'ai travaillé avec des femmes depuis l'âge de 21 ans voilà, jusqu'à 30 et quelques.
Et quand tu avais 21 ans, enfin, c'était des femmes-femmes.
C'était des femmes
40 ans.
À minima, je pense qu'il y avait 10 ans d'écart d'âge, quoi. Okay. Ce qui est 30, 40, 50, jusqu'à 60. J'avais des collègues qui sont partis en retraite pendant que je bossais et tout. Et déjà, le milieu professionnel faisait que t'es qu'avec des femmes, donc ça va jamais arriver de faire des blagues de cul. Ça me serait jamais venu à l'esprit. Déjà, je me serais fait. Le terme n'existait pas, mais je me serais fait cancel. Tu vois, direct. Le terme n'existait pas à l'époque. Mais ça n'aurait jamais fonctionné, en fait. Et bon, après, moi, j'avais cette éducation qui faisait qu'avec une mère et une sœur, avec des personnalités assez fortes, féministes, qui m'avaient quand même vraiment ouvert l'esprit sur ces sujets-là et l'équité, quand même. Je pense que même si j'ai pu être un peu macho à l'adolescence, il y a des genre en grandissant à 20 ans, j'étais pas encore bien malin surtout, mais en tout cas il y avait des trucs sur lesquels les choses devenaient un peu plus claires pour moi. Et en travaillant qu'avec des femmes, en fait, très rapidement, tu as des sujets de conversation tout à fait normaux, tu peux parler de ta vie, etc. Et puis je pense qu'en fait d'apprendre à parler de soi, de ses sentiments, de ce qu'on ressent, ça permet aussi, je pense, si quand t'arrives à le faire de manière un peu saine, tu vois, que t'es pas en train de te morfondre à chaque fois, parce que j'ai des copains hyper machos, mais dès qu'ils parlent, ils se mettent à pleurer.
Donc mais ça, non.
C'est ouais, parce que en fait c'est finalement des gens qui font semblant, tu vois, c'est pas des gens qui font forcément toujours très bien et qui cachent des trucs.
Bon, du coup en fait ils gardent tout et une fois que ça ils explosent sur les chiales, quoi.
Ouais. Ouais. Mais après, puis t'as des gens qui ne parlent jamais aussi. J'ai plutôt eu à mon papa, quand j'ai pas mal parlé, hein. Lui, c'était pas quelqu'un de la culture de la parole, tu vois. On n'exprimait pas ses sentiments. Moi, je pense que j'ai appris des trucs sur mon père à 30 piges, tu vois.
Mais complètement.
Tu vois, et un peu par hasard, au détour d'une conversation, en recoupant des trucs avec ma sœur. Enfin, tu vois, de ce qu'elle, elle sait, ce que moi,
c'est
je sais.
C'est vrai qu'ils parlent pas de leurs sentiments, en vrai. Ouais. Enfin, là, je suis en train de me souvenir si j'ai jamais... Je pense que j'ai jamais entendu mon père ou mon oncle ou enfin les hommes en fait de la famille, tu vois, parler de leurs sentiments ou s'exprimer.
Moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir ces deux femmes dans ma famille, de ma sœur et ma mère, et d'être dans un milieu professionnel très féminin où il y avait pas de, c'était pas mal vu de parler. En plus, je bossais dans le social, donc t'es plutôt invité à parler, contraire, et t'invites les gens à parler. Et je pense que très rapidement, moi, c'est quelque chose qui s'est installé dans ma vie, donc j'ai jamais eu besoin, après, en vieillissant, même dans mes relations. Alors ça a pas toujours été évident dans la libération de la parole, mais c'était pas forcément par machisme, donc c'est pas exactement le même sujet, mais c'est de parler de soi, et on apprend plus avec le temps. Mais je pense que
tout est lié en soi, si tu
ouais exactement tout en fait lié. C'est il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que l'environnement, il y a une partie de soi aussi, de comment on est capable nous-mêmes, de la résilience, de comment on est capable aussi de s'extraire de ce à quoi on a été confronté gamin, puis de regarder un peu et de se dire en fait non, ça ne me correspond pas et ce n'est pas ce genre de relation que je veux avoir avec les gens. Tu vois, et moi je pense que j'ai des relations apaisées avec les gens en général, que ce soit des garçons ou des filles. Tu vois, j'ai rien à imposer, si je suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais défendre mes idées, mais c'est pas un truc de, c'est pas parce que je suis un mec et que j'ai une teub que d'un seul coup mon avis va peser plus que celui des gens en face. Et encore une fois, je pense qu'il y a un truc où oui, on est conditionné par notre éducation d'une certaine façon, par l'environnement dans lequel on a évolué, par les potes avec lesquels on a grandi. Moi j'ai grandi dans un quartier, donc il y avait quand même un truc un peu où tu vois, de mimétisme, de faire un peu comme les autres. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai pas été très malin collège, lycée, parce que tu fais les mêmes blagues sur les meufs, etc. Ouais. J'avais bossé sur les chantiers aussi un peu plus jeune avec mon père, dans un milieu très masculin avec des hommes de 50 ans. Je te dirais, je te parlerai pas des blagues qu'ils faisaient là. Mais tu vois, c'était vulgose de fou en fait, c'était de la vulgarité totale quoi. Donc, mais c'était aussi peut-être une autre génération, une autre éducation. On se mélangeait pas les hommes et les femmes, on traînait pas ensemble hommes et femmes. Tu vois, c'était en tout cas pas dans ces milieux-là ouvriers.
Mais du coup, est-ce que, enfin, là, on est en train d'en parler. Enfin, je réfléchis à voix haute. Mais est-ce que le machisme, c'est aussi un peu être sexiste? D'un côté.
Je pense que c'est un dérivé.
C'est,
le sexisme, c'est le grand chapeau, mais le machisme, ça rentre dedans, plus dans ce truc, encore une fois. De... Bah, parce que vraiment, j'ai vu tellement de copines en souffrir, tu vois, plus que de copains. Parce que les copains, limite, tu peux le dire franchement,
t'abuses.
Alors que les copines, généralement, tes potes avec la meuf. Tu connais pas toujours le mec, ou tu le connais pas bien, c'est le mec de ta pote. T'oses pas trop lui parler.
Bah, c'est à cause de ça que j'ai perdu 2-3 copines très 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 proches en plus. Mais c'est à cause de ça en fait, vu que je la voyais, elle était contente. Genre il y avait des beaux moments en vrai, tu vois. Mais derrière, t'avais c'est le mec à ma pote en fait. Je le connais pas forcément, je peux pas.
C'est celui qui vient en bas de chez elle et qui met des coups de pression. T'as pas envie de le connaître en fait. Mais moi, je pense que j'ai rien à partager avec des gens qui fonctionnent comme ça.
Ouais, mais du coup derrière.
Comment je peux les raisonner, tu vois? Mais non, ce que je vais dire, c'est à ma pote. Tu peux pas, par contre, accepter de vivre dans la terreur, parce que là, tu parles de terreur, ce qu'elle a vécu.
Ah, pour le coup, autant te dire qu'ils sont mariés et que voilà.
Ouais, mais pour moi c'est pas une relation, enfin c'est pas une relation amoureuse qui me fait envie en tout cas, tu vois, c'est pas apaisé ce truc là. Et je pense que c'est complètement sexiste en fait, c'est complètement lié à une image que t'as de la femme et de à quoi elle doit servir. On est dans un truc de quand même il y a un peu côté objet quand même, hein, tu vois, de quelqu'un à qui tu peux dire ce qu'il doit faire quand il doit le faire, si où est-ce qu'elle va aller manger, la jeune fille là, on parle d'elle à la troisième personne, et puis tu vois, c'est, on dépersonnalise complètement les gens, on leur ôte toute capacité de penser et de réfléchir par eux-mêmes, on dit, on va réfléchir pour toi parce que t'es une meuf, et encore une fois, le sexisme, il va s'exprimer d'une autre manière, parce que des machos, je te donne un exemple, je suis à Toronto chez mon cousin, qui a 15 ans de plus que moi. Moi je suis le dernier, alors mon père c'est le plus jeune, il a deux sœurs. Il y a un garçon chez la première de ses sœurs, et moi je suis un garçon chez le dernier des enfants, donc chez le fils. Entre, il n'y a que des filles. Entre, il n'y a que des filles. Donc, j'ai un cousin qui a 15-20 ans de plus que moi. Et donc, je suis à Toronto. Je te passe un peu les détails. J'étais parti là-bas pour une fête serbe qui a lieu une fois par an. Puis, on s'habille bien. On s'habille bien. Donc, moi, j'ai ramené ma petite chemise, ma cravate, ma veste. Je voulais me faire un peu beau, tu vois, pour la famille et tout. Et puis, je suis pas un as du pliage dans les valises.
Normal,
donc, je sors la chemise. La chemise, elle est immétable, tu vois, on dirait du crépon. Donc, j'ai dit, OK, je vais demander où il est le fer à passer. Je descends les escaliers, je suis dans ma chambre, je descends, hop, je vais aller au rez-de-chaussée. Je vois mon cousin, je dis, où est-ce que je peux trouver le fer à passer? Et là, il éclate de rire. Il me dit, le quoi? Et je dis, le fer à repasser. Il me dit, c'est quoi ça? Il provoque un peu. C'est quoi ça? Il me dit, ça en serbe. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, je lui montre ma chemise, je lui mime parce que, tu vois, je ne sais même pas comment expliquer comment sert d'un fer à repasser en serbe, alors je lui mime. Voilà, et il rigole. Je lui dis, non, mais il fait, mais moi, je ne sais pas, demande à ma femme. Et il rigole derrière. Il me dit, non, mais donne ta chemise à Tina et elle va faire.
Elle va le faire.
J'ai dit, non, mais hors de question. Ta femme, aujourd'hui, elle a préparé à manger pour 40 personnes. Moi, je vais lui demander de repasser ma chemise. C'est ta femme, mais toi, t'es un malade.
À quelle
heure je vais lui demander? Non, mais pour moi, c'était la honte. Ça veut dire que je suis pas capable de m'occuper de moi.
Ouais.
Pour moi, c'est très sexiste, tu vois, la manière, le comment dire, l'approche générale.
Ouais.
Et le machisme, c'est encore, ça se vient, je trouve ça, il y a un côté un peu plus pervers dans ce rapport de domination et de manipulation, de dire parce que t'es une meuf, encore une fois, bah en fait t'es conditionné à agir comme ça.
Bah en fait, comment toi tu l'as perçu, c'était en mode ça n'a aucun sens, enfin c'est,
ah ouais, pour moi ça n'a aucun sens,
ça n'a aucun sens, mais pour lui, j'imagine que pour,
mais pour lui c'était ma question qui n'avait aucun sens.
Bah oui,
ma question n'avait, c'était un choc culturel en fait, tu vois. Ouais. Tout à l'heure on parlait de la culture, moi j'ai, voilà, couple mixte, tu vois.
Ouais.
Franco-serbe, j'avais j'ai un peu la culture serbe de ce que m'a transmis mon père, mais j'ai grandi en France, donc j'ai grandi dans le 93, donc limite j'ai même un côté 93 banlieusard, etc., plus que serbe finalement.
Ouais.
Donc c'est pas tant ça qui me définit, mais je trouve encore une fois que si j'avais voulu prendre le chemin de la facilité et de pas considérer l'être humain que j'ai, enfin les êtres humains que j'ai en face de moi pour ce qu'ils sont, bah j'aurais été dans la reproduction de ce que mon père faisait. Sauf que je pense, encore une fois, j'aime bien être un mec, tu vois, j'aime bien ce que c'est d'être un mec. Je suis pas une meuf, mais en tout cas ça me plaît bien d'être un mec.
Okay.
Je me suis jamais posé la question si j'étais une meuf, est-ce que je préférerais ou pas. Peut-être que ça serait mieux. En tout cas je le sais pas, j'ai pas trop l'occasion de le savoir, mais tu vois, j'aime bien même cette idée de voilà, dégager un truc où je suis un gars de confiance, je suis un gars sur qui on peut compter. Tu vois, il y a le physique, mais il y a aussi même moralement, tu vois, de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui peut défendre s'il faut défendre. Je parle pas des meufs ou des mecs, tu vois, alors pas des meufs en particulier,
un être humain,
mais tu vois, d'avoir un truc, d'être capable de me défendre moi-même, de protéger les personnes que j'aime, et tu vois, et là la virilité, elle est au service de ça.
Okay.
Mais tu vois, c'est pas pour imposer un truc.
Ouais.
Enfin, ouais, c'est là où la virilité, pour moi, qu'est-ce qu'être viril, tu vois, c'est pouvoir se défendre soi-même physiquement, mais verbalement aussi, tu vois, d'avoir un truc de confiance en soi, de ce qu'on dégage, etc.
Ouais.
Mais aussi de pouvoir protéger les autres, de pouvoir un truc qui est un peu comme une aura, tu vois, un truc qui se diffuse en tout cas.
Donc est-ce que un de tes potes, par exemple, ils t'ont déjà vu faire quelque chose qui pour toi c'était normal, mais pour eux du coup t'ont dit en fait c'est pas très viril?
Bah moi je pense que oui, dans ma manière d'appréhender la question des sentiments et d'exprimer les sentiments.
Okay.
Ou de ce que j'ai laissé passer à ma meuf.
Comment ça, laisser
genre passer? En gros, si tu la laisses faire ça, après c'est fini, elle va prendre trop la confiance, nan, nan, nan. Sauf que pour moi en fait ma meuf, les filles avec qui j'ai été, les filles avec qui je serai, elles auront toujours le droit de faire tout ce qu'elles veulent, en fait, parce que je vais jamais lui dire ce qu'elle doit. Après, tu vois, il peut y avoir des désaccords ou des trucs où j'ai pas aimé ton comportement, mais c'est pas, tu vois, genre c'est pas parce que t'es une meuf.
Ouais, c'est juste parce
si
que
si c'était un mec et que tu te comporterais mal, je te dirais la même chose.
Ouais.
Donc finalement, je pense que ça m'est déjà arrivé d'avoir des ouais, ta meuf, tu la laisses trop prendre la confiance avec toi. T'as vu comment elle te parle, t'as vu comment elle devant les autres, tu vois.
Du coup, ils remettent en question ta virilité.
Ouais,
pour
parce
eux.
Que par exemple, ça m'est déjà arrivé que plusieurs des meufs avec qui je suis sorti, quand je fais de la merde et qu'il y a du monde, elles me disent tu déconnes en fait.
Ouais.
Mais quand tu fais de la merde, heureusement que si les gens que t'aimes, ils peuvent pas te dire que tu déconnes.
Bah,
mais moi, j'ai des potes qui me disaient. Ta meuf, tu vois, ça y est, elle a pris la confiance, elle bolosse devant tout le monde, tu vois. Mais pour moi, c'est pas bolosser, c'est encore une fois. Après, ça dépend comment c'est fait.
Ouais.
Mais moi, je me suis jamais senti humilié en même temps, tu vois. T'as un rapport de couple avec quelqu'un. À quel moment tes potes, tu vois, ils vont me dire tu te fais bolosser parce que ta meuf, elle a donné son avis sur un truc que tu. Franchement, que t'aurais pas dû faire. Parce qu'en vrai, généralement, quand je réfléchis, c'est des trucs que j'aurais pas dû faire. Si c'est des trucs où j'étais persuadé, tu vois, d'avoir bien fait ou je sais pas quoi.
Ouais.
C'est une discussion que j'aurais eu avec elle et puis on serait, tu sais, j'aurais dit écoute, là tu me dis que t'aimes pas mon comportement, mais voilà, moi je l'ai fait pour ça. Ça c'est, tu sais, je disais, moi je suis très bavard, j'aime la discussion, j'aime le dialogue, j'aime que les gens ils puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Mais c'est pas vrai pour la plupart des gens en fait.
Mais oui, en fait, c'est pour ça que ça revient au truc qu'on s'était dit, c'est que j'ai l'impression que pour les hommes, le fait de parler de sentiments, de s'exprimer, de dire quand ils vont mal, de même pleurer des fois, mais en fait ça fait des hommes moins virils, ça touche leur virilité.
Il suffit de voir, tu vois, même les clichés sur l'homosexualité qui peuvent peut-être encore un peu moins aujourd'hui, mais qui sont quand même bien présents. Mais tu vois, genre, efféminé, c'est on peut, genre si on est gay, on est forcément efféminé, on n'est pas viril. Ouais. Enfin, à quel moment c'est un rapport, tu vois, oui. Même de l'orientation sexuelle, tu vois.
Ouais.
Mais je pense que pour beaucoup de garçons, avoir une fragilité, c'est féminin. Et des garçons qui expriment une fragilité, pour certains garçons, c'est même homosexuel. Enfin, tu vois, c'est gay ou homosexuel. Des trucs, des liens qui tu comprends pas, en fait.
Mais oui, putain, c'est un rappel, en fait. J'écoutais le podcast Man Enough.
Ouais.
Tu te souviens le podcast dont j'avais parlé?
Oui.
Et en fait, ça, le mec, il a dit un truc qui était hyper intéressant et tellement vrai, en vrai. C'est qu'il disait que, en fait, les hommes, pour eux, en grandissant, on leur a pas interdit. Mais si, un peu quand même interdit, mais genre quand tu es assis par exemple, croise pas les jambes. Croise pas, tu vois. Parce que sinon, ça, c'est trop féminin. Si tu pars, dans un bar, un resto, voilà, tu vas prendre une boisson, tu vas pas boire avec une paille, c'est féminin. C'est faible. En fait, ils ont fait, enfin la société aussi, l'éducation, l'environnement, il a fait que tout ce qui est féminin,
est faible ou fragile.
Est faible ou fragile. Et donc, tu ne dois pas faire un de ces comportements ou avoir un de ces comportements si tu veux vraiment être un homme. Sinon, t'es faible et donc, t'as un côté féminin. En fait, et ça, je trouve vraiment, c'est moche et c'est dommage pour les hommes parce qu'en même temps, ça te fait subir une pression encore plus. Parce que déjà, ils ont la pression de « il faut oui » pour eux, l'homme. C'est le provider, c'est celui qui va, apporter. Ils ont vraiment beaucoup de pression, donc je comprends, tu vois. Vraiment, faut les comprendre aussi, et je crois que, enfin, tu le sais. Mais derrière, ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est, oui, il y a une partie, c'est à cause de l'éducation. Il y a une partie à cause de l'environnement, tes amis, où est-ce que tu voyages, où est-ce que tu passes l'été. La famille à côté, la grande famille, machin, même le travail et tout. Mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient à la personne qu'elle est adulte et qu'elle est assez, enfin, qu'elle est censée, qu'elle a l'information devant elle. Si tu ne cherches pas à travailler sur ce côté-là, si tu ne cherches pas à voir plus loin que ce qu'on t'a appris.
Si tu le vois pas du tout, même.
Voilà, même si tu le vois pas du tout. T'as une part de responsabilité, faut pas rejeter ça juste sur...
Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que même, tu vois, d'avoir appris à parler de mes sentiments, alors sentiments, ça veut dire ça va bien, ça va pas bien, les émotions qu'on a, hein, c'est en général, c'est pas toujours quand ça va pas bien d'ailleurs. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, je pense, dans la vie à avancer et à des moments de me dire... je te dis, j'ai bossé pendant 12 ans dans la protection de l'enfance, dans le social. Et à un moment, en fait, c'était une pression énorme, mais pas une pression énorme en tant que garçon, en tant que fille, c'était une pression énorme au quotidien en tant que travailleur social.
Est-ce que tu peux dire exactement
je travaillais donc à l'aide sociale à l'enfance, et mon travail, c'était de placer des enfants en famille d'accueil, en foyer, suite à des maltraitances. Donc, abus sexuels, des enfants battus, voilà.
Ok. J'imagine que ça devait pas être facile.
Et en fait, c'est un boulot qui était pas du tout facile. Et heureusement qu'on pouvait en parler. Même en parlant, c'était pas forcément toujours évident de pouvoir gérer ça. À aucun moment, je me suis trouvé féminin ou pas viril ou je sais pas quoi. J'avais des collègues qui étaient des femmes. Elles en chiaient parce que c'est un boulot hyper dur en fait.
Ouais.
C'est pas parce qu'on est faible. Mais... c'est parce que c'est un boulot qui est dur et qui impacte. Mais tu vois, d'avoir pu aussi exprimer ces trucs-là, d'avoir pris l'habitude de parler et de réfléchir et de penser à ce que je veux, à ce que je voudrais faire, et ben c'est aussi ça qui m'a permis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de changer de champ professionnel.
Ouais.
Ça me coûtait pas mal psychiquement de bosser dans le social parce que voilà, j'étais confronté à des situations pas évidentes et j'en avais marre en fait de les ramener à la maison, d'être stressé parce que j'allais à l'audience avec monsieur ou madame machin qui allait encore m'insulter parce que tu places les gamins des gens.
Oui,
donc
oui.
Les gens ils te détestent, hein, forcément. Mais c'est aussi de pouvoir faire le point, de réfléchir. Non, en fait, je peux plus supporter ça. Mm. Et d'accepter de dire je ne peux plus supporter ça. Et en fait, j'ai eu une opportunité de changer de taf. Je suis rentré par la petite porte. Toute petite porte. Et puis je suis rentré et j'ai monté les échelons petit à petit, tu vois, et plusieurs années après, j'en suis là où j'en suis, mais j'ai charbonné, mais aussi je me suis posé plein de questions sur est-ce que je dois le faire, comment le faire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tu vois, et ça, encore une fois, je pense qu'on nous apprend pas à le faire quand on est un mec. Alors ouais. que quand on est une fille, on est toujours en train de te dire, limite, on rêve pas trop grand.
Ouais.
Rêve pas trop grand. Et nous, au contraire, c'est genre, toi, tu peux tout avoir parce que t'es un mec, etc.
Ouais.
Mais si c'est au détriment des autres et pour marcher sur la gueule des autres, tu vois, ça pour le coup, c'est pas l'éducation que j'ai reçue. Mon père était très macho, mais quelque part, il m'a jamais appris qu'on était plus important que quelqu'un d'autre.
Okay.
Et finalement, c'est peut-être ça que j'ai gardé de lui. Et j'ai abandonné le côté, tu vois, genre ce truc de avoir des stéréotypes et avoir vraiment des idées arrêtées sur comment doivent se comporter les gens parce qu'ils sont garçons ou filles, quoi.
Non, mais c'est bien, en vrai. Franchement, c'est bien. Mais je suis complètement d'accord, en vrai. Parce que si tu reviens sur virilité, moi, si je devais résumer, pour moi, en vrai, et je ne généralise pas du tout, pour qu'on soit clair, comme tu le sais, on ne généralise jamais dans ce podcast. Mais pour moi, être viril, c'est en plus de l'aura que tu... Comment on appelle ça ?
Dégage.
Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Les gars, il est plus de minuit dépassé. Si j'oublie un mot, c'est normal, ok ? Mais c'est l'aura que tu dégages. Mais c'est aussi être à l'aise avec soi-même et aussi savoir communiquer. Ça ne fait pas de toi une personne faible ou...
Moi, je pense qu'au contraire, ça m'a vachement renforcé dans la vie. Hein. Ça m'a vachement renforcé parce que finalement, j'ai pu travailler sur les trucs qui étaient un peu plus compliqués.
Mm.
Tu vois, de dire, ok, là-dessus, je sais que c'est une fragilité et j'essaie de savoir pourquoi.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi des trucs de ton enfance, ta relation à tes parents qui peuvent te marquer. Si tu mets ça dans un placard, que tu fermes à double tour et que tu tèges la clé, il y a un jour, peut-être tu vas jamais craquer.
Ouais.
Mais si tu craques, tu craques fort.
Ouais, c'est vrai que c'est.
Tu craques très fort.
La chute.
Et en fait, c'est ça le truc, c'est comment on se détache de tout ça. C'est en apprenant justement à faire de ces fragilités des forces, parce qu'il y a qu'en en parlant et en les exprimant que tu vas pouvoir devenir une meilleure personne, te renforcer et affronter la vie mieux armé en tout cas.
Ouais.
Et je pense encore une fois, si je reprends l'exemple de mon père très macho, quand il y a eu des trucs un peu, des difficultés dans la vie d'ordre émotionnel, ça a été dur pour lui parce qu'il avait aucune réponse. Moi, je vais pas raconter toute ma vie, mais tu vois, des trucs qui arrivent dans les familles où c'est un peu compliqué à des moments. Et je pense qu'il a manqué, d'outils pour aider, ma mère quand des moments c'était peut-être moins facile dans leur vie, etc.
Ouais.
Parce qu'il avait pas l'habitude de parler, il avait dans un truc de le mec il dit et puis tu sais, il va se mettre dans son fauteuil, il regarde
les infos
ou le match ou je sais pas quoi, tu vois. Mais quand il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, si t'as pas l'habitude de parler, si t'as pas l'habitude de creuser un peu et d'aller au-delà de t'es un homme, tu fais ça, t'es une femme, tu fais ça.
Ouais.
Quand t'as des vraies galères,
c'est la merde.
C'est la merde.
Oui.
Et je sais que, tu vois, avec le recul, l'expérience, moi, j'ai vécu des trucs dans ma famille où je me suis dit, s'ils avaient parlé plus, on aurait avancé plus vite.
Bah oui.
Tu vois, il y a des discussions que j'ai aujourd'hui avec ma mère, que j'aurais, si je les avais eues il y a 20 ans, peut-être qu'on aurait, tu vois, ça aurait été mieux.
Mais tu sais, ça me rappelle un truc. Est-ce que tu regardes la série Friends ?
Alors, je l'ai regardé, mais j'ai pas regardé depuis longtemps.
Ok, mais en fait, il y avait un épisode, enfin, il y avait, je crois, deux, trois épisodes où il y avait Bruce Willis qui était invité.
Ah oui, qui était le mec de je sais plus qui, d'ailleurs.
C'était le père.
Ah, le père
de la copine de Ross.
Ah ouais, pardon.
Quand c'était son étudiante, Ross sortait avec son étudiante et en fait, Bruce Willis, c'était son père.
Je confondais avec Tom Selleck qui sortait avec Monica. Non, c'est pas ça ? Il n'y avait pas le mec avec la moustache.
Je l'aime tellement, ce mec.
Ouais.
Oh là là,
je confondais avec lui, qui est sorti avec...
Non, je ne parle pas de lui.
Mais Bruce Willis, du coup, il était le père de la meuf de Ross. Okay,
voilà, si je ne me trompe pas, c'était bien Bruce Willis. Et en fait, il s'est passé un truc avec Rachel.
Okay.
Donc, Bruce Willis et...
Il est sorti avec Rachel.
Et Rachel, ils sortent ensemble et tout. Et en fait, il y a un épisode où tu vois Rachel qui essaie de le faire parler, communiquer, parler de ses sentiments. Et le mec, c'est une porte fermée, verrou, tout ce que tu veux. Il parle pas. Et lui dit ça va, il lui dit ça va. Tout se passe bien, oui, tout se passe bien. Genre, vraiment, il s'exprime pas. Et ça la faisait chier qu'il s'exprime pas, tu vois. Mais il avait aussi l'image du mec hyper, je sais pas, un peu viril, macho, je sais pas. Voilà, il était vraiment fort, solide, tout ce que tu vois. On avait cette image là. Et en fait, on avance au niveau, enfin, dans l'épisode et il arrive à s'exprimer. Mais comme tu as dit, ça a explosé. Donc il n'arrêtait pas de lui raconter toute sa vie et de pleurer en même temps. Et du coup, tu la voyais, elle, derrière au début. Ah, oh, c'est beau, il s'exprime et tout.
Et en fait, après, ça a
et
tout niqué.
Ça l'a fait chier. Genre, il se tait pas, il parle trop, il arrête pas de chialer, j'en ai marre. Et du coup, moi, quand je regarde cet épisode, bah avant, du coup, avant d'avoir cette discussion avec toi, je me dis, putain, mais elle a trop raison, arrête de parler, merde. Mais...
Ouais, mais parce que là, c'est parti, c'est un torrent, en fait. C'est qu'à un moment, oui. On avait mis un bouchon dans un tuyau avec la pression, et à un moment, le bouchon, il a sauté. Et...
Voilà, ça a explosé. Mais du coup, aussi derrière, moi, ce que je veux dire, c'est que même en tant que meuf, on nous a appris à kiffer le mec viril, macho, qui parle pas, un peu mystérieux, nana. Enfin, on a douté.
J'ai écouté ton épisode sur les bad boys.
Ah bah. Merci, c'est gentil. Mais du coup, oui, on nous a appris à kiffer ce genre de mec-là. Alors que le mec qui parle ses sentiments ouvertement, qui s'exprime, qui même des fois pleure, pour nous, il est pas très mec. Tu vois ou pas? On nous a aussi appris... Et
mais il faut qu'on apprenne à trouver l'entre-deux maintenant.
Bah voilà,
parce qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Tu vois,
oui,
je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Et être viril, ça veut pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, ça veut pas dire ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas.
Ouais.
Tu peux être les deux en même temps.
Bah oui.
Au contraire, encore une fois, je pense que être capable de dire ce qu'on pense et de l'exprimer, et d'exprimer ce qu'on ressent et d'avoir du vocabulaire pour le faire,
la communication,
c'est une putain de force. Tu vois, c'est un truc qui aussi, je pense. Alors, j'ai l'impression, moi, renforce la virilité, peut-être, tu vois.
Mm.
De se dire, putain, le gars que j'ai en face de moi, non seulement, bah, tu vois, il dégage un truc, il est costaud, il est je sais pas quoi, il a une tête de bad boy, il a ce que tu veux, et je le trouve beau, mais en même temps, il a aussi cette capacité à analyser ce qui se passe, à comprendre, à parler.
Il
c'est
a de
hyper sexy, tu vois. Et ça.
Ouais.
Et moi, je pense que de la même manière que chez une femme, je trouve ça hyper sexy d'être capable, tu vois, de parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent. Pas dans un test. Souvent, les clichés qui vont avec les femmes qui parlent de leurs sentiments, c'est toujours pour chialer.
Ouais.
Il
ne
s'agit pas de parler de ses sentiments, c'est parler de ses émotions, du ressenti, quand on est en colère, quand on n'est pas d'accord, quand on est d'accord, quand on est excité intellectuellement, etc. Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de sexy. Et ça doit être... Tu vois, c'est pas un trait de caractère féminin ou masculin.
Complètement. On en parlait en plus avec ma sœur, parce que du coup, ma sœur, elle a un petit garçon. C'est mon petit neveu, l'amour de ma vie, qui s'appelle Naël. Et en fait, l'autre jour, je l'avais au téléphone. Ils habitent au Maroc. Et ma sœur, elle m'a appelée, elle était trop contente. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, j'étais en train de... Elle est partie voir mon petit neveu dans sa chambre le matin et tout. Bonjour chérie, nanana, machin. Elle lui dit, est-ce que ça va? Il lui dit, non, ça va pas. Le mec, je crois qu'il avait même pas 2 ans. Il lui a dit, ça va pas. Et il était tellement contente qu'il dise...
Ça va pas?
Oui, qu'il s'exprime, qu'il dise ce qu'il veut, comment il se sent. Parce qu'en soi, je peux te dire que nous, on n'a jamais vu ça. On te dit, ça va, tu dis, ça va. Il n'y a pas de ça va pas. En plus, tu n'as même pas 2 ans. Donc, voilà. Donc, il dit, ça va pas. Et si des fois, il a envie de faire un truc, il dit, oui, je veux ça. Non, je veux pas faire. Non, je veux pas embrasser. Parce que culture marocaine, on fait beaucoup.
Fais bisous.
Voilà, ouais. On fait la masse de bisous. C'est... Va embrasser ta tante, va embrasser nana.
Culture serbe. Mamie avec, qui a du poil au menton,
voilà,
hein,
voilà.
Qui pique là.
Tu fais la masse de...
Et là, tu fais tes dégoûtés. Ça pique de partout quand t'es petit là.
Laisse-moi
tranquille.
Coup, pour elle, c'est hyper important qu'il s'exprime, qu'il dise et qu'il communique en fait ses sentiments. Au-delà de faire et tout, mais il s'exprime et qu'il dise vraiment. Communication, elle travaille vraiment beaucoup dessus. Et je trouve que c'est beau, tu vois, pour que la prochaine génération, elle grandisse dans ce sens-là, mais qu'aussi les hommes d'aujourd'hui, ceux qu'on côtoie, qu'ils travaillent sur ça. Parce que comme je t'ai dit, ils ont une part de responsabilité dans la chose.
Ah mais moi j'en suis encore une fois j'en suis persuadé.
Ouais.
Tu vois, et là on a parlé virilité machisme, on n'a pas été au-delà du machisme, mais tu vois, même la question de... la violence qui s'exprime des hommes vers les femmes, tu vois, le rapport de domination, c'est si on le pousse encore plus loin, c'est qu'on peut, même plus loin que macho encore, parce que là on a parlé des machos gentils, mais il y a les machos
macho
plus vénères, tu vois, et qui vont, eux, estimer qu'en fait, parce qu'ils sont des hommes, ouais. ils ont l'ascendant sur les femmes. Et là, c'est encore, enfin, tu vois, c'est encore le niveau d'au-dessus. Et ça, c'est peut-être lié à des générations et des générations et des générations d'hommes ouais. à qui on apprenait qu'on pleure pas, on sait pas quoi, mmh, et mmh. que les femmes, elles sont comme ça, et que toi, tu décides pour les femmes, et que si elles sont pas d'accord, bah, elles se ferment leur gueule, et puis si elles sont pas d'accord pour le reste, tu vois, c'est, ouais. tu leur imposes. Ouais. Donc ça, c'est encore le niveau d'au-dessus. Et c'est pour ça que la libération, finalement, de la parole chez les femmes, de pouvoir dire ce qui se passait avec certains hommes, bah, y a quand même des mecs qui se sont dit « Putain, on n'en parlait pas beaucoup. Mm. » Et en fait, il se passe tout ça. Et moi, je sais que, par exemple, pour en avoir parlé avec beaucoup de copines qui ont commencé à parler de ce qu'elles avaient vécu, tu sais, du harcèlement de rue, de trucs comme ça,
ouais.
j'ai commencé à en parler avec des potes. Moi, j'en avais jamais parlé, en fait. C'était ah, pas c'est... déçu. Ben non, je savais pas, en fait. Mm. Je pense qu'avant, il y a 5-10 ans, mm-hmm. j'étais à des années-lumière de, tu vois, de pouvoir imaginer que mes amis, ma sœur, alors je n'ai jamais parlé à ma mère, mais, mais avec ma sœur en tout cas, ou des copines très proches, etc., ou même plus éloignées, quasiment tout le monde a vécu des trucs comme ça.
Ah,
et ça
oui.
veut dire que bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui se comportent comme ça. Donc pour le combattre, il faut aussi que les hommes qui sont autour et qui ne sont bah, pas dans les mêmes logiques.
Ouais. Qu'ils en parlent.
Pas dans les mêmes approches, qui parlent entre eux.
Ouais.
Pour, tu vois, que les mecs qui sont comme ça, ils se sentent en minorité. Et
ouais.
c'est ça, tu vois, c'est quand, quand ils vont être en minorité.
C'est là que ça va changer.
Bah ouais, c'est là que tu changeras la donne. Et on commence ça commence un peu, mais c'est pas.
Franchement, ouais,
on
n'y
est
pas encore.
Mais on y est vraiment, enfin, il y a quand même du boulot. Hein.
Ouais.
Mais c'est aussi comme ça qu'on inversera la tendance.
Mm.
Parce que je pense qu'on isolera les gens qui se comportent. Enfin, tu vois, de dire non, c'est pas OK, en fait.
Mm.
Non, c'est pas OK d'être comme ça. Non, c'est pas OK de dire à une meuf. Tu vois, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'avais pas forcément toujours la discussion avec mes potes.
Ouais.
Les bons potes, oui, mais les autres, je me permettais pas. Bah, maintenant, en fait.
Tu le dis.
Un mec que je connais pas, que je trouve qui se comporte comme un connard devant sa meuf, je suis avec une pote, même si je le connais pas trop, je veux dire, on était en 2023, ouvre
ouais.
les yeux là, enfin, à quel moment ça se
bah
passe
oui,
comme ça, tu vois
ça.
Et
oui,
de pouvoir rentrer un peu dans les gens et dire non, c'est pas acceptable en fait.
Bah écoute, franchement, j'espère vraiment que même avec la société dans laquelle on est, mais c'est vrai que tu vois un peu de changement, ça commence, c'est petit.
Petit.
C'est tout petit, mais à nous aussi de.
Mais je pense que c'est un travail qu'on doit partager.
Ah mais de ouf. Ah pour le coup, oui.
Parce
on
que
est
tu
tous...
vois, je pense que on peut. Alors c'est votre, enfin pour le coup c'est votre combat, mais on doit vous soutenir dans ce combat-là. Tu vois, c'est pas un truc. On peut pas vous prendre votre place parce que c'est pas. On n'est pas à notre place là-dedans. Mais par
ouais.
contre, notre place c'est de vous soutenir et de dire aux mecs qui se comportent comme ça, non, c'est pas normal.
Mm. Mais après, je dirais que ce n'est pas seulement le combat des meufs. Non, c'est le combat de...
De tout le monde. Ah oui, je suis d'accord. Mais quand je dis c'est votre combat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous loter. Parce que souvent, les mecs, ils aiment bien faire ça.
Ne ouais.
vous inquiétez pas, on va vous protéger les meufs.
Ouais, non,
protège
pas, chérie, on ne vous protège pas.
Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis c'est votre combat, c'est plutôt dans ce sens-là.
Mm.
C'est le combat de tout le monde, mais on ne peut pas se mettre à votre place. Que moi, on ne m'a jamais mal parlé dans la rue, on ne m'a jamais suivi, on
ouais.
m'a jamais... Et bon, c'est pas exactement le machisme, mais pour moi c'est un peu le prolongement, tu vois, c'est
ouais.
que on est quand même sur le mauvais chemin quand on prend déjà celui du machisme.
Mmh, complètement. Bah écoute, j'espère que déjà de toute façon avec cet épisode, ah oui, ça fait une heure qu'on parle quand même. J'ai même pas senti. J'espère quand même que ça va apporter déjà juste même pas ça apporte mais juste ça ouvre la discussion. Genre la prochaine fois que tu es avec des potes à toi, que tu en parles en fait, que je sais pas si tu as un pote qui s'est jamais exprimé, invite-le à s'exprimer, juste parler, ouvre la conversation, mets la personne à l'aise. Et aussi, si t'es un mec et t'es en train d'écouter ce podcast, franchement, si tu sens, tu t'es senti concerné ou t'as senti que tes potes, ils étaient concernés, parlez-en. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait pas de toi quelqu'un de moins viril, au contraire, ça fait de toi une personne qui a confiance en elle et qui est prête à travailler sur elle-même pour s'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, en fait.
C'est un très bon résumé, je trouve.
Ah, t'as vu,
ouais.
franchement.
C'est vachement bien. T'as réussi à résumer une heure de blabla en 5 minutes. Je pense que tu peux garder que ça. Hein.
Ah, mais vraiment, franchement, vas-y, on fait ça. Bah, du coup, voilà. Merci en tout cas, Boris.
Merci, c'était super cool.
Franchement, c'était grave.
Tu vois, genre, ça m'a permis de même de penser à des trucs auxquels j'avais jamais pensé.
Bah, moi aussi.
Tu vois. Et pourtant, on a quand même un peu préparé l'émission.
On a parlé, genre, il y a une semaine, on en a parlé là.
Et là, tu vois, il y a des trucs qui me sont venus en me disant, tu vois, sur le truc de le rapport de... Il faut être deux, finalement,
oui.
pour être macho.
Oui.
Donc...
C'est vrai. Bah écoute, trop contente.
Je dis ça à mes copines, tu vois. Un mec viril, il peut être viril tout seul.
Ouais, mais pour être macho, il faut être deux.
Bah, il faut, et puis, il faut quelqu'un qui accepte de se faire bolosser. Pour le coup, tout à l'heure, je disais bolosser, etc.
Ouais.
Mais pour moi, tu vois, je sais que c'est dur en plus parce que le rapport psychique, il est compliqué quand t'es amoureux, etc. Ouais. Et que t'as du mal à te sortir de ça. Mais on n'est pas heureux quand on est comme ça. Si on sent, tu vois, moi, le truc de ta copine là, qui a menti parce qu'elle n'ose pas dire à son mec, toujours ça me déchire le cœur en vrai.
Oui.
De devoir mentir à l'âge qu'on a, tu sais que t'es 25 ans, t'es 30 ans, t'es 18 ans, et que tu dois mentir à quelqu'un parce que t'as peur de lui dire que tu vas dans une boîte avec tes copines.
Ouais.
Sérieux. Même, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter ça dans ce sens-là.
Ouais.
C'est qu'on a le droit de kiffer, qu'on soit un garçon ou une fille. Kiffons.
Ouais.
Moi, je n'aurais pas envie qu'on m'impose des trucs.
Clairement.
Et ben, il n'y a pas de raison que je t'en impose à toi.
Clairement.
Voilà.
Et juste pour finir l'épisode, pour finir l'anecdote, l'histoire que j'ai racontée au tout début du mec qui m'a dit je te dis où on se voit, à quelle heure on se voit et on va travailler sur ton agressivité. Je te confirme que j'ai bien répondu gentiment pour lui dire que j'avais une journée occupée. Si tu viens, t'es le bienvenu. Si tu viens pas, il n'y a pas de souci, ça ne change rien ma journée. Mais si tu viens, on va travailler sur ton jugement. Voilà. Donc, il faut parler. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu le dis. Si tu aimes quelque chose, tu le dis. Exprime-toi, communique. Il n'y a pas mieux. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Boris, merci encore.
Merci pour l'invitation.
Et n'hésite pas, si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.